Bonjour. Un grand patron en garde à vue à la PJ de Nanterre, Vincent Bolloré, interrogé depuis ce matin sur la gestion des ports africains du groupe Bolloré avec des soupçons de corruption que nous détaillera Florence Turm dans un instant. Le conflit social à la SNCF, à la croisée des chemins, l'intersyndicale s'interroge tout à l'heure sur la stratégie de long terme pour durer sans s'essouffler. Guillaume Pépi, lui, s'attaque au porte-monnaie des grévistes, analyse d'Hakim Kasmi. Carlos Tavares primé chez PSA, les actionnaires accordent ce matin à leur PDG une prime d'1 million d'euros pour avoir lancé un plan de redressement chez l'allemand Opel. Avec 4000 emplois menacés, il s'agirait plutôt d'une prime à la casse, ironise la CGT. Une trentaine d'imams indignés qui co-signent une tribune dans Le Monde, rejet de l'antisémitisme qui monte dans la jeunesse, oui, mais appelle au discernement aussi après le texte sur le nouvel antisémitisme publié dimanche dans Le Parisien. Élection parlementaire aujourd'hui au Groenland, le territoire danois déjà très autonome, coupera-t-il les ponts avec Copenhague? En tout cas, 6 partis sur 7 en lice aujourd'hui sont favorables à l'indépendance. Enfin, au deuxième jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington, l'invité de notre séquence interview, ce sera l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, François Bujon de l'Étang. Et puis la deuxième partie de la grande table, Olivia.
Après un détour par les États-Unis avec ses portraits de présidents, Kennedy, Bush ou encore Obama, après une histoire de l'agence de renseignement américaine, la CIA, guerre secrète et une autre de l'interventionnisme américain dans le monde selon Bush, le réalisateur et documentariste William Carrel s'intéresse à nouveau à Israël, ce territoire, ce conflit. 70 ans déjà depuis la création de l'État d'Israël. On va revenir avec lui sur la genèse de cet État et des années qui ont suivi dans la deuxième partie de l'émission.
L'action Bolloré qui plonge de plus de 5% à la Bourse de Paris. Sanction immédiate des marchés. À peine la nouvelle était-elle tombée en milieu de matinée. Vincent Bolloré, placé en garde à vue, entendu en ce moment même dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre. Bonjour Florence Turm.
Bonjour.
Le capitaine d'industrie breton est interrogé par les enquêteurs sur le cœur d'un historique de son empire, la gestion des ports africains de Bolloré, où planent des soupçons de corruption.
Oui, alors pour bien comprendre l'affaire, il faut remonter au début de l'année 2011 dans le port de Conakry, la capitale guinéenne. Quelques mois plus tôt, Alpha Condé a été élu à la tête du pays et le nouveau président décide par décret de résilier la concession portuaire attribuée à la société Jetma, une filiale du groupe français Nekotrans. Le nouveau chef de l'État la confie alors à celui qu'il présente ouvertement comme son ami, Vincent Bolloré. Mais Nekotrans ne l'entend pas de cette oreille. Écarté, mis en difficulté financière, le groupe dépose plainte pour corruption internationale, plainte classée sans suite dans un premier temps par le parquet de Paris. La bataille judiciaire entre les deux sociétés se poursuit sur d'autres terrains. Aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour corruption d'agents publics étrangers qu'est entendu Vincent Bolloré. Les juges du pôle financier qui avaient perquisitionné le siège de sa société en avril 2016 le soupçonnent d'avoir utilisé sa filiale de communication Havas pour appuyer la candidature et la campagne d'Alpha Condé et surtout de l'avoir fait à prix réduit en sous-facturant diverses prestations et missions de conseil avec la contrepartie que l'on imagine en retour. Jean-Philippe Doran, le responsable du pôle international d'Havas est d'ailleurs lui aussi en garde à vue, de même que le directeur général du groupe Bolloré. La ferme ne concerne pas seulement le port de Conakry, mais aussi celui de Lomé au Togo, d'où un autre concessionnaire franco-espagnol, celui-là, avait été chassé en 2009 au profit du même Vincent Bolloré, lequel a fait savoir ce matin par l'intermédiaire de son avocat que l'audition en cours permettrait d'éclairer utilement la justice sur ces questions. Elles ont fait l'objet, dit-il, d'une expertise indépendante qui a conclu à la parfaite régularité des opérations.
Florence Turm, merci pour toutes ces précisions. Le conflit social à la SNCF à présent est-il arrivé à un carrefour? En tout cas, la grève en pointillé est entrée aujourd'hui dans son 10e jour, saison 5, épisode 2 en quelque sorte. Les discussions entre l'intersyndicale et le gouvernement sont interrompues depuis la semaine dernière. On a donc un mouvement qui s'inscrit dans la durée au point peut-être de se faire oublier. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Camille Magnard.
L'intersyndicale des cheminots se réunit tout à l'heure et la question sur la stratégie à poursuivre fait débat.
Oui, face à l'intransigeance du gouvernement, les syndicats doivent maintenir et motiver les troupes. Car certains pourraient perdre patience et abdiquer face à la pression de Matignon qui est jusqu'au boutiste sur ce dossier. D'autant que même si la grève est perlée, pour limiter l'impact financier, les conséquences financières commencent à se faire ressentir. La perte sèche pour les petits salaires est estimée entre 300 et 400 euros par mois. Or, la grève est prévue jusqu'à la fin juin, voire plus. L'intersyndicale qui doit se réunir ce soir soir doit décider de la suite à donner au mouvement. On parle d'une extension à l'été, même si pour l'instant l'intersyndicale préfère ne pas en venir là. Le baromètre, en fait, ce sont les conducteurs. Tant que le nombre de grévistes restera important, il est aujourd'hui de 63%, c'est un peu plus qu'hier, eh bien l'intersyndicale continuera d'avoir une certaine pression sur la base. Demain, une nouvelle rencontre est prévue lors de la conclusion de la concertation sur la qualité du transport public ferroviaire avec des élus, des grands patrons, mais aussi des députés. Mais vu la dégradation du dialogue social ces derniers jours, puisqu'ils refusent de parler avec Madame Borne, la ministre des Transports, eh bien ces derniers devraient annoncer qu'ils ne se rendront pas à cette réunion prévue demain.
Alors Hakim, vous l'avez dit, la question financière est essentielle pour la suite du mouvement. La direction de la SNCF confirmait ce matin que dès le mois de mai, elle ne rémunérera plus les jours de repos pris entre deux périodes de grève. C'est un moyen de pression plutôt clair pour les grévistes. On vise le porte-monnaie, Hakim, avec un Guillaume Pépi droit dans ses bottes.
Oui, une stratégie éprouvée qui ne date pas d'aujourd'hui. Sauf que si la direction de la SNCF se permet d'aller aussi loin avec ses salariés grévistes, c'est parce qu'elle sait qu'elle a les pleins pouvoirs et le plein soutien du gouvernement, mais du président de la République, Emmanuel Macron lui-même, qui encore redit sur Fox News, la chaîne de télévision américaine, qu'il irait jusqu'au bout de ses réformes. Guillaume Pépi, qui a déjà annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, c'est donc qu'il a les mains libres, mais les syndicats n'entendent pas se laisser faire, puisque la CFDT va signer dès demain au tribunal de Bobigny, la SNCF, en justice, sur le décompte du nombre de jours de grève, puisque la SNCF voudrait, dès le mois prochain, ne plus compter les jours de repos des salariés grévistes.
Hakim Kasmi, on le rappelle tout de même, jusqu'à ce soir, un TGV et un intercité sur trois seulement circulent, et sur le réseau TER et Transilien, c'est deux trains sur cinq. Et c'est également le 11e jour de grève, cette fois chez Air France, alors que la consultation de tous les salariés voulue par Jean-Marc Janaillac sera lancée jeudi. Le PDG a mis sa démission dans la balance. Il demande au personnel de désavouer les syndicats, lesquels ont rejeté sa proposition d'augmenter les salaires de 2% cette année, puis 5% de plus sur 3 ans. Résultat du vote électronique qui sera connu le 4 mai. S'agit-il d'une prime au résultat ou bien d'une prime à la casse sociale ? Le PDG du groupe Auto PSA se voit attribuer aujourd'hui par ses actionnaires une prime exceptionnelle d'€1 million, un complément de rémunération pour services rendus avec la mise en place du plan de redressement chez l'allemand Opel qui a été racheté l'été dernier par PSA. Sauf que ce plan s'accompagne de milliers de suppressions d'emplois. Outre-Rhin, les syndicats, dénoncent une prime immorale. Et pourtant, contrairement au salaire de Carlos Ghosn chez Renault, ce bonus pour Carlos Tavares ne crée pas vraiment débat au conseil d'administration à leur choix.
Oui, cette prime liée à l'acquisition d'une autre entreprise, en l'occurrence Opel, bien que mal vue des investisseurs en général, reste courante dans le monde des affaires jusqu'à l'année dernière. Ces primes n'étaient même pas soumises au vote des actionnaires. Désormais, c'est obligatoire et les actionnaires de PSA, vous l'avez dit, devraient l'accepter. Le conseil de surveillance du groupe estimait en mars dernier que le rachat d'Opel, qui éteint le groupe et donc les responsabilités de son patron, devait logiquement conduire à une rémunération exceptionnelle de 1 million d'euros, ajoutée, on le rappelle, à une part fixe de 1,3 million d'euros, à une part variable de 2,4 millions d'euros et à des actions dites de performance pour près de 2 millions d'euros. Bref, une rémunération exceptionnel qui vient récompenser, toujours selon le conseil de surveillance, des résultats financiers records 4 ans après avoir connu une quasi-faillite et juste après donc le rachat d'Opel et la mise en place dans les usines allemandes d'un plan de départ de 3700 emplois d'ici 2 ans. Si effectivement les résultats financiers de PSA se sont améliorés, sur le fond, les coûts de production jugés trop élevés d'Opel, aucune avancée notable n'est en revanche enregistrée. Les dirigeants allemands en attribuent la faute au syndicat allemand qui bloque les négociations sur les modalités de reprise de certains sites. Quant à l'ampleur de la somme, 1 million d'euros de prime pour avoir supprimé des emplois, c'est l'éternel débat. Certains syndicats français de PSA comme FO n'y voient rien à redire. D'autres, vous l'avez dit, l'estiment indécente, la CGT notamment, qui la qualifie de prime à la casse. On ne sait pas encore ce que va voter la BPI sur la question. Le bras armé de l'État français détient 13% du capital de PSA, un État qui avait recapitalisé l'entreprise alors qu'elle était au bord du gouffre.
Un autre écho à leur choix, merci, de cette Assemblée Générale des Actionnaires de PSA, c'est Louis Gallois, le président du Conseil de Surveillance, qui devrait être reconduit pour 2 ans, mais qui annonce qu'il ne renouvellera pas ses fonctions, donc à la tête du Conseil de Surveillance de PSA, après 2 ans. Un autre grand groupe français, français qui dévoile une nouvelle stratégie de développement, c'est Vinci, avec un positionnement qui s'affirme sur le marché aérien mondial. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Camille.
Vinci annonce l'acquisition de 9 aéroports, dont un, et c'est une première, aux États-Unis. C'est un repositionnement de fonds pour le géant des autoroutes et du BTP en France.
Oui, alors que Bercy planche sur la privatisation d'ADP et que Vinci est présenté comme le grand favori pour rafler la participation si l'État décide de le vendre, une sorte de compensation pour l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, selon certains observateurs, le groupe Vinci en effet continue son expansion dans le secteur aéroportuaire. Un secteur à forte croissance et axe désormais prioritaire de développement stratégique du groupe. Vinci Airports ajoute donc 9 aéroports à son portefeuille, ce qui porte à 45 le nombre de plateformes dont il assure l'exploitation totale. Viennent alors compléter la collection l'aéroport de Belfast, de plusieurs plateformes régionales américaines et de l'aéroport d'Orlando-Sanford International en Floride. Par cette acquisition, Vinci Airports s'implante aux États-Unis et bénéficie ainsi d'un point d'entrée sur le plus grand marché aérien du monde, indique le groupe dans un communiqué. Le trafic aérien progresse partout en effet dans le monde, tant sur les aéroports internationaux que régionaux. Une croissance à deux chiffres au-delà des 10%, quand pour vous donner un élément de comparaison, la croissance du trafic autoroutier géré par Vinci n'atteint pas les 2%. Les activités de ces concessions autoroutières ou celles des métiers du BTP sont, comme on dit, dans un cycle de maturité. Il faut donc diversifier. Voilà pourquoi Vinci aime les aéroports et qu'il va sans aucun doute continuer de les aimer à l'étranger, mais aussi en France, où il en gère déjà une dizaine.
Annabelle Grelier, merci. Midi 42 sur France Culture, une tribune pour pousser encore plus loin la réflexion après la tonalité très alarmiste de ce texte publié dimanche par Le Parisien et qui dénonçait les méfaits de l'islam en France sur le développement d'un nouvel antisémitisme, lequel confinait, je cite, à l'épuration ethnique à bas bruit. Et bien cette fois, aujourd'hui, c'est dans les colonnes du Monde qu'une trentaine d'imams prend la plume. Bonjour Charlotte Lalanne.
Bonjour.
Cette tribune n'est pas une réponse frontale à celle rédigée par Philippe Val et largement commentée depuis dimanche, mais elle apporte un regard différent, celui d'une communauté, les musulmans de France, qui s'est sentie clairement montrée du doigt.
Oui, à tel point que tout silence devenait intenable. Complice et même coupable, écrivent ces 30 imams, parmi lesquels Tarek Oubrou, imam de la mosquée de Bordeaux.
C'est une nécessité, les temps que les imams qui ont une responsabilité liturgique pastorale et qui sont au chevet de leur communauté et qui œuvrent au quotidien auprès d'une jeunesse en perte de repères, de se prononcer en public et de sortir de leur paroisse et d'offrir leur service, parce que un imam, c'est aussi un citoyen.
Des citoyens indignés en tant que Français et musulmans, affirment les signataires, par la confiscation de leur religion par des criminels. Ils adressent d'ailleurs un avertissement aux musulmans contre, je cite, cette tentation mortifère. Le vrai sacrifice est de se donner pour les autres, peut-on lire, comme l'a fait notre héros national, le colonel Arnaud Beltrame, en référence donc à ce gendarme tué par un terroriste à Trèbes dans l'Aude après avoir pris la place d'un otage. Alors au-delà de l'urgence de la lutte contre le terrorisme, il faut poursuivre les 30 imams, s'attaquer au mal plus profond dont il est le symptôme. Mais encore faut-il pour cela y parvenir, un discours d'apaisement contre tout populisme communautariste. Tarek Oubrou.
Les imams se trouvent confrontés à cette double ignorance d'une partie de leur communauté qui n'a pas de culture religieuse, parfois une jeunesse qui souffre de la délinquance et de la marginalité, et puis les élites de notre société qui passent du fait religieux à une recherche génétique de la violence dans le Coran. Et c'est un peu gênant parce que ça ne participe pas du vivre ensemble et ça ne relève pas d'une intelligence et d'une nuance qui sépare le texte de l'interprétation du texte. Il ne faut pas changer le texte, mais les lunettes qui regardent ce texte.
Et pour une foi éclairée, les signataires proposent de mettre leurs compétences au service des pouvoirs publics, dans les prisons, dans les écoles, sans sacrifier, précise-t-il, le principe de laïcité.
Charlotte Lalanne, un nouvel antisémitisme lié à l'attitude de certains réfugiés arabes. Je ne cite pas cette fois la tribune du Parisien dimanche, mais des propos tenus par Angela Merkel. C'était hier sur sur une chaîne de télévision israélienne. La chancelière allemande poussée à cette prise de position très tranchée alors que la question des agressions visant des juifs allemands s'est imposée au centre du débat politique outre-Rhin. On voit ça depuis Berlin avec Cyril Sauvageau.
La prise de position d'Angela Merkel était très attendue après l'agression à coups de ceinture la semaine dernière d'un jeune israélien dans les rues de Berlin. Filmée en vidéo amateur, la scène a choqué l'Allemagne et remise en lumière la montée inquiétante de l'antisémitisme dans un pays où les actes de ce genre ont longtemps été l'apanage de groupuscules néo-nazis. Nous avons maintenant une autre forme d'antisémitisme importée par des réfugiés ou des personnes d'origine arabe, a reconnu la chancelière dans cet entretien accordé à la télévision israélienne à l'occasion des 70 ans d'Israël. Il y a quelques mois déjà, les images de drapeaux israéliens brûlés lors d'une manifestation à Berlin avaient poussé les autorités allemandes à réagir. Angela Merkel avait annoncé la nomination d'un commissaire à l'antisémitisme. Dernièrement, plusieurs cas de harcèlement d'enfants juifs en milieu scolaire ont également fait la une de la presse. En réaction à l'agression filmée la semaine dernière, un appel à rassemblement est lancé pour demain soir avec ce mot d'ordre « Berlin porte la kippa ». Les Berlinois et Berlinoises sont invités à se réunir devant le centre juif de la capitale. Le maire, Michael Müller, est attendu, ainsi que des représentants des communautés religieuses et le comité des survivants d'Auschwitz.
Cyril Sauvageau à Toronto. Alec Mination sera présenté pour la prochaine fois à un juge dans la journée. Le jeune homme de 25 ans avait projeté sa camionnette de location hier sur la foule dans une rue de Toronto, faisant 10 morts et 15 blessés. Selon les dernières informations transmises par les autorités canadiennes, c'est un acte délibéré mais sans lien apparent avec la sécurité nationale. Où l'on reparle à présent des poussées indépendantistes au sein de l'Union européenne. Aux antipodes, pourrait-on préciser, de notre continent, bien loin de la Catalogne, nous nous intéressons au Groenland, un territoire de 4 fois la France en superficie, mais une population qui ne dépasse guère les 56 000 habitants. Et donc des élections parlementaires qui s'y tiennent aujourd'hui, avec une campagne, Stéphane Robert, qui a été polarisée autour de cette délicate question d'une possible indépendance vis-à-vis du Danemark.
Oui, comment conduire le Groenland vers l'indépendance vis-à-vis du Danemark? Si cette question est délicate, ce n'est pas parce qu'il y a d'un côté les pour, de l'autre les contre. Sur les 7 partis politiques qui présentent des candidats, 6 sont indépendantistes et celui qui ne l'est pas est crédité de quelques pourcents d'intention de vote seulement, ce qui signifie que la population est largement favorable à l'indépendance. Donc si cette question est délicate, c'est parce qu'elle est une sorte de révélateur des nombreuses difficultés de ce territoire. Le Groenland dispose d'une large autonomie, mais vit sous perfusion danoise. Le Danemark lui verse chaque année l'équivalent de 500 millions d'euros, ce qui représente 60% du budget du gouvernement groenlandais. La problématique est donc comment financer l'indépendance. Le Groenland, vous l'avez dit, est un territoire 4 fois grand comme la France, qui dispose d'importantes richesses en pétrole et en minerais. Mais ces richesses ne sont quasiment pas exploitées. Ses ressources propres proviennent essentiellement de la pêche, 90% des exportations. Il n'y a donc pas d'infrastructure pour exploiter les richesses minières, tout est à faire. Or, le territoire manque cruellement de cadres, ingénieurs, médecins, professeurs, chercheurs, intellectuels, susceptibles de porter des projets de développement. La société groenlandaise est minée par les problèmes d'alcool et de dépression. Elle compte le taux de suicide le plus important au monde. Le contexte international, quant à lui, est plutôt menaçant. La Chine, la Russie, les États-Unis lorgnent avec gourmandise sur ce territoire et ses richesses. Et aucun parti politique ne semble aujourd'hui armé pour accompagner le Groenland vers l'indépendance. Le territoire dispose du droit à l'autodétermination depuis 2009, depuis 9 ans. Et ces élections législatives aujourd'hui sont censées donner le tempo d'un calendrier qui doit conduire à la pleine souveraineté. Mais les favorites de ce scrutin ont préféré axer leur campagne sur les problématiques sociales et d'éducation. Et ils évoquent l'indépendance, oui, mais d'ici une à deux générations.
Stéphane Robert, merci à vous. Nous en venons à présent à cette visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. Deuxième journée ce mardi qui va commencer avec une rencontre à la Maison-Blanche avec Donald Trump et qui va se terminer en dîner d'État à l'invitation du couple Trump. Nous allons en parler dans un instant avec notre invité, François Bujon de l'Étang. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ambassadeur de France à Washington de 1995 à 2002. Vous allez nous donner votre analyse sur les enjeux et sur la communication autour de cette visite d'État. Mais avant cela, pour nourrir notre réflexion avec vous, Marie-Pierre Véraud, on voit comment les médias américains se font l'écho de cette visite d'Emmanuel Macron. On cherche en fait ce que dissimule le vernis glamour qui entoure l'événement.
À l'image du New York Times qui s'attarde sur les embrassades, la bise sur les deux joues de Macron à Trump, signe en France d'un accueil chaleureux, précise le quotidien, parlant d'une improbable amitié. Un lien inattendu entre les deux dirigeants, abonde le Washington Post. Plusieurs titres outre-Atlantique ayant encore du mal à apprécier ces marques d'amitié si voyantes envers un dirigeant si critiqué à la maison.
raison. Macron veut être le pote de Trump, écrit le Washington Post, mais attention, avant de lister tout ce qui divise, commerce, climat, multilatéralisme, l'accord sur le nucléaire iranien, bien sûr, arrivant en tête. C'est un test que cette visite, explique le Wall Street Journal, un test qui permettra de savoir si l'alchimie personnelle entre les deux hommes permet de combler le fossé grandissant dans leurs approches politiques. Tous les observateurs en sont convaincus. Un retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien entraînerait le monde dans le risque d'une spirale où la course au nucléaire deviendrait incontrôlable. Alors, pour tenter de convaincre Donald Trump, les négociateurs s'emploient à muscler cet accord, notamment sur le contrôle des programmes des missiles balistiques ou avec des inspections dans les sites militaires également. Cela sera-t-il suffisant? La question agite la presse américaine. Elle souligne par exemple le New York Times que le cabinet de Donald Trump est divisé sur la question entre un faucon, son nouveau conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, et son futur secrétaire d'État, Mike Pompeo. En tout cas, les quotidiens américains sont unanimes sur un point. La nature versatile de leur président et le pari qui consiste à vouloir obtenir un accord 3 semaines avant l'échéance qu'il a lui-même fixée au 12 mai. Le président français prend le risque de ne rien obtenir, écrit ainsi le New York Times. Jusqu'à présent, ajoute le journal, il n'est parvenu qu'à décrocher la première visite d'État de l'ère Trump. Une chance peut-être toutefois dans le dossier iranien, note le quotidien. La rencontre prochaine prévue entre Trump et le numéro 1 nord-coréen, déchirer aujourd'hui l'accord sur le nucléaire iranien, pourrait affaiblir les chances d'avancer avec Kim Jong-un. C'est peut-être la meilleure opportunité d'amadouer Donald Trump, quel que soit le talent de persuasion du président français.
Marie-Pierre Véraud, vous restez avec nous pour cette séquence interview. François Bugeon de l'Étang, alors cette visite, elle est plus risquée pour Emmanuel Macron? Il faut qu'il ait des résultats face à Trump, toujours imprévisible.
Ce serait très bien d'obtenir des résultats, c'est évident. Alors cela dit, une visite d'État, c'est une visite d'État, n'est-ce pas? Ce n'est pas une négociation.
C'est une visite d'État,
elle a une portée d'affichage, elle a une portée symbolique, elle est tout à fait importante. Et le simple fait qu'elle se tienne et que la première visite d'État organisée par le président Trump soit pour le président de la République française est en soi un symbole assez puissant. Après tout, la France est le premier allié historiquement des États-Unis et ça se retrouve dans ce choix de la France pour une première visite d'État. Donc ce n'est pas une négociation. Alors cela dit, une visite d'État, bien entendu, donne lieu à des discussions en tête à tête entre les présidents. Ils ont déjà commencé hier soir au cours du dîner.
Et les sujets,
de divergence ne manquent pas.
Mais alors vous feriez la même analyse que la presse américaine, disant c'est un pari risqué pour Emmanuel Macron s'il ne fait pas fléchir hein, Donald Trump, que ce soit sur le commerce, ses sanctions sur l'acier ou sur l'Iran, il aura perdu.
Ça, c'est une vision typique de la presse américaine qui n'est généralement pas très favorable à la France. Je dis ça par expérience. Elle n'est pas non plus favorable à M. Trump d'ailleurs, parce que le New York Times et le Washington Post, que vous avez cités tous les deux, sont deux journaux qui sont à l'avant-garde de la lutte anti-Trump. Donc, ils n'ont pas de gentillesse à dire sur qui que ce soit dans l'ensemble. Il faut essayer d'en prendre une vision, je crois, un petit peu plus dépassionnée. Il y a des quantités de sujets qui sont des sujets difficiles entre la France et les États-Unis. Oui, l'accord nucléaire iranien, bien entendu, vient en tête, mais il y en a d'autres. Le retrait éventuel des troupes américaines en Syrie avant la fin de l'année, par exemple, ou bien l'accord sur le climat, avec la décision annoncée par M. Trump de s'en retirer.
Sur la question de la Syrie, Emmanuel Macron s'était avancé en disant on a fait changer d'avis Trump sur le fait de retirer ses boys.
On s'efforce de faire changer M. Trump d'avis. Et ensuite, les porte-paroles de la Maison-Blanche ont bien dit que M. Trump n'avait pas modifié son opinion. Donc ça, c'est un autre point. Il y a les questions tarifaires aussi sur l'acier, l'aluminium, et les guerres commerciales, la perspective des guerres commerciales d'une façon générale. Et puis il y a d'autres sujets qui ne sont pas vraiment des sujets de divergence, mais qui sont des sujets de brainstorming ensemble, comme Poutine par exemple. Que faire de Poutine? Comment traiter avec Poutine? C'est un sujet à traiter entre les deux chefs d'État. Alors, est-ce que c'est risqué pour M. Macron? Vous pouvez soutenir une autre vision, après tout, qui est de dire, si M. Macron, alors que Trump est notoirement un interlocuteur difficile et qui ne change pas facilement d'avis. Si M. Macron parvient à le faire changer d'avis sur un sujet aussi important que le nucléaire iranien ou sur les troupes américaines en Syrie, par exemple, ce sera un succès pour M. Macron et ce sera mis à son crédit. D'un autre côté, vous pouvez dire, s'il n'y obtient rien, ce n'est au fond pas étonnant puisque M. Trump est un interlocuteur notoirement difficile et le blâme sera mis sur M. Trump davantage que sur M. Macron. Donc vous pouvez soutenir au fond que la visite est un peu win-win. Est un peu win-win. Il reste
du gagnant-gagnant en France.
Oui.
Pardon. Une dernière question, Marie-Pierre.
Oui, il reste que c'est peut-être pas une administration facile avec laquelle traiter. Vous avez été longtemps ambassadeur, Camille le rappelait, aux États-Unis. Il y a une valse des conseillers dans le cabinet Trump. Oui. Et là, on a un cabinet un peu divisé entre un faucon, John Bolton, que vous connaissez bien.
Oui.
Et puis Mike Pompeo, futur secrétaire d'État, qui serait peut-être sur une position plus divergente.
Oui, alors il y a eu des changements récents dans le cabinet de Trump qui font que des gens qu'on considère comme raisonnables, connaissant bien le monde, et qui pouvaient être des freins, comme Rex Tillerson, l'ancien secrétaire d'État, ou surtout le général McMaster, le précédent conseiller à la sécurité nationale, sont partis. Ils ont été écartés par M. Trump. M. Bolton, je le connais parfaitement. Il a été sous-secrétaire d'État pour les affaires de désarmement et les affaires du contrôle des armements. C'est un néoconservateur tout à fait va-t-en-guerre. C'est un personnage très difficile, très très difficile à convaincre et très extrémiste dans ses vues. Monsieur Pompeo passe également pour un dur, mais il n'est pas encore confirmé.
Merci beaucoup François Bujon de l'Étang
Carrel, l'invité
pour votre intervention.
Oui,
William Carrel, vous êtes autour de la table, vous avez signé de nombreux documentaires également sur les présidents américains.
On voudrait savoir si vous êtes en train d'en préparer un en ce moment
J'en ai fait un qui a été diffusé une semaine avant l'élection où pendant une heure et demie, je racontais pourquoi Trump ne serait jamais président des États-Unis. Donc depuis, je me suis un peu calmé.
Vous faites silence sur ce sujet. Vous touchez plus au sujet.
Mais sur le sujet qui nous concerne, c'est vrai que pour Israël, c'est une catastrophe complète. Trump, l'arrivée de Trump et ses initiatives et transférer l'ambassade
à Jérusalem.
Enfin.
Pourquoi ? En quoi ?
Parce qu'il attise le feu, il est responsable de la mort de tous les Palestiniens, des 40 Palestiniens, depuis qu'il a... C'est lui qui a déclenché les émeutes en parlant du transfert de l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem.
C'est lui et Benjamin Netanyahou qui sont sur la même ligne et qui s'alimentent dans cette ligne-là.
Oui, mais disons, ça c'était déjà suffisant avec Netanyahou, on n'avait pas besoin d'un deuxième...
On va reparler d'Israël.
C'était une mise en bouche en étant
dans la deuxième partie de la grande table avec vous, William Carrel. Avant de ça, quelques mots de météo, des nuages sur le nord-ouest, mais quasiment pas de pluie cet après-midi. Un soleil toujours franc ailleurs, des températures qui restent stables autour de 15 degrés sur les côtes de la Manche et entre 20 et 25 degrés du nord au sud. Cette édition a été réalisée avec Yacine Bouzard à 18h. Prochain journal présenté par Stanislas Lazac.